Au-delà des limites, c'est une conversation d'une heure qui est ouverte, sans complaisance, avec des personnes déterminées, persévérantes et résilientes, vivant avec un handicap ou certaines limitations. Dans cette émission, on met l'accent sur leur parcours et leurs projets. Vos animateurs, Yvan Deslauriers. Bonjour Yvan.
Bonjour Francine.
Et moi-même, Francine Forget. Chaque matin, notre invitée se réveille sans mains ni pieds. Puis chaque soir, elle doit enlever ses prothèses de bras et de jambes pour dormir. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Ce texte est extrait du couvert 4 du livre « Se relever sans mains ni pieds » qu'elle a publié aux éditions de Mortagne en 2020. L'auteur que nous recevons aujourd'hui, Marisol Saint-Onge. Elle relate dans ce livre l'histoire de sa vie, surtout après qu'elle eut été infectée par la bactérie mangeuse de chair. Au cours de la prochaine heure, on ne parlera pas seulement de ça, loin de là. On va parcourir avec elle certains pans de sa vie. Elle est entrepreneur, artiste peintre, illustratrice, conférencière, chroniqueuse et, trois petits points, elle insiste pour que je le dise ainsi, quadruple amputé. Alors, bonjour Marisol Saint-Onge.
Bonjour, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Un plaisir, merci d'avoir pensé à moi.
Oui, c'est une belle journée pour se rencontrer, hein?
Oui, en effet.
c'est vrai, la température n'est pas si mal. Et puis, tout va bien dans le monde et c'est extraordinaire.
Tout va bien. je suis content que tu nous l'aies dit.
Alors, on va commencer en parlant d'inclusion, c'est sûr, parce que c'est une cause qui t'est chère. Parce qu'on va, de toute façon, on va en parler tout au long de l'entrevue, mais on va commencer avec la visibilité. Pourquoi? Parce que depuis 2012, et on y reviendra à cette année, tu as été beaucoup, beaucoup dans les médias. Tu as été à LCN, tu as été à des émissions phares comme Tout le monde en parle, le Journal de Montréal qui a quand même un grand tirage et d'autres journaux, dans les magazines dont celui de Véro, dans lequel tu as accordé une entrevue extrêmement touchante et même en la relisant aujourd'hui, ça crée le même effet, j'imagine, que ça a dû être à l'époque. Tu es aussi chroniqueuse hebdomadaire pour Le Nouvelliste, mais en fait, je dis Le Nouvelliste, mais toutes tes chroniques sont reprises dans les médias de la coop de l'information, donc tu es diffusée partout à travers le Québec. Tu as fait deux livres, « Quand l'Everest nous tombe sur la tête », et se relever sans mains ni pieds. Alors, bref, Marisol, on te voit souvent. Est-ce que toi, parce que nous, on n'est pas tannés de te voir et de t'entendre parler, mais toi, là, est-ce que quand tu arrives pour faire une entrevue avec nous, là, aujourd'hui, est-ce que tu te dis, bon, là, c'est une autre entrevue, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter?
Non, en fait, j'espère même avoir du temps pour raconter d'autres choses que le départ. C'est sûr que oui, je l'ai raconté souvent, là, comment ça m'est arrivé, mais je suis pas tannée pour autant. Honnêtement, si j'ai choisi d'être conférencière, de faire autant de partages via les livres, les réseaux sociaux, ben c'est justement pour désensibiliser, pour dédramatiser le handicap. Et de revenir à la base, comme moi, j'étais une non-handicapée avant d'avoir une maladie qui a amené la quadruple amputation. Mais ce regard-là, de passer de personne valide à invalide, ça amène quand même un angle de vue qui peut être profitable, je crois, pour la société. Puis c'est pour ça que je suis pas du tout tannée, que j'ai toujours hâte à ces entrevues-là, puis que j'espère juste avoir le temps d'en dire plus.
Est-ce qu'aujourd'hui...
On est correct, oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce type d'intervention que tu fais, puis ça aussi, on va y revenir un peu plus tard dans tes conférences dans les écoles, entre autres, est-ce qu'aujourd'hui, tu le fais, je dirais, en ayant quand même un recul important? Est-ce qu'il y a moins d'émotions, je dirais, dans ces conférences aujourd'hui?
Oui, heureusement que j'ai envie de rajouter, parce qu'effectivement, les premières années en conférence, puis on a commencé très vite là, à donner des conférences. Il y avait un an à peine qui séparait de l'épreuve, de la maladie. Et j'avoue qu'au début, en tout cas, je me souviens surtout de la première que j'avais donnée. Les larmes étaient montées aux yeux, je les avais retenues, j'avais trouvé ça tellement difficile. Je me disais, mais pourquoi je me fais cette violence-là? Pourquoi est-ce que je m'impose ça? Parce que c'est de revivre effectivement l'histoire à chaque fois. Mais le recul des années, là, bientôt ça va faire 13 ans, oui, ça donne une distanciation avec les émotions, ça permet d'être un petit peu plus extérieur quand je le raconte, mais en même temps, je le raconte avec plein de sincérité. C'est pas que je le revis, mais quand je le raconte, je le ressens encore, ouais.
Est-ce que au fil des années, quand tu t'adresses à des gens ou quand tu fais des entrevues comme aujourd'hui dans les médias, est-ce que on met moins l'emphase sur ce qui t'est arrivé et plus sur ce que tu es devenu?
Ah, ça prend du travail pour ça, parce que c'est sûr que on remonte souvent au départ. C'est aussi très très marquant là. J'avais 34 ans, tout à coup, se retrouver, une jeune maman, artiste peintre, active, là, se retrouver tout à coup, plus de bras, plus de jambes, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. Mais oui, comme la vie a avancé, il y a tellement d'autres choses qui me préoccupent, qui m'arrivent, que j'ai envie d'avoir une plus grande conversation sur ce que c'est le handicap aujourd'hui, puis comment on peut bien le vivre, comment on peut vivre avec résilience, c'est quoi mes petits trucs. C'est plus rendu là que je suis maintenant aujourd'hui.
Oui. T'es rendu là, mais il reste qu'il y a quand même deux autobiographies qui ont été publiées. Alors, c'est sûr que ça reste, hein? C'est des livres qui sont encore disponibles, qui sont encore distribués. Premièrement, je te demanderais, comment se fait qu'il y en a eu deux?
Ah ben le premier, quand l'Everest nous tombe sur la tête, est quand même très différent de se relever sans main ni pied. C'est-à-dire que c'est Alain qui fait la différence, mon conjoint. C'est lui qui a parti d'ailleurs ce projet-là de l'écriture. Moi, j'étais encore hospitalisée, qu'on en parlait, qu'on avait même trouvé le titre alors que j'étais toujours alitée à l'hôpital. Et lui, par les réseaux sociaux, la façon qu'il arrivait à gérer toutes ces émotions-là à ce moment-là, c'était beaucoup dans l'écriture. Et ça l'a amené tranquillement ce projet-là de livre. Et donc, lui a toute sa vision du proche aidant que je trouve tellement merveilleux qu'on ait ce livre-là pour lui donner cette parole-là. Parce que oui, on met souvent la lumière sur la personne qui vit les épreuves, bien sûr, mais il reste que celui qui l'accompagne ou celle qui l'accompagne pour d'autres a tellement un rôle important que de pouvoir lui donner la parole, de voir qu'est-ce que lui vivait au moment où moi, j'en vivais d'autres émotions. Je trouve que c'est très, très précieux. Et là, on était très collés sur l'épreuve quand on a écrit « Quand l'Everest nous tombe sur la tête ». Donc, c'est un journal de bord au jour le jour. C'était presque une enquête pour nous de l'écrire, hein, de se dire qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là. Puis on était dans les rapports médicaux, avec les calendriers jour après jour. Puis, dans le fond, on rapportait ce qui nous était arrivé, mais d'un narrateur à l'autre. Alors que « Se relever sans main ni pied », ben, ça a été écrit comme un 5, 6, 7 ans après. Alors que j'avais un plus grand recul sur les événements et que là, on aborde un peu plus le après plutôt que le pendant.
Oui, le premier, si je t'entends bien, ça serait comme un journal de bord, alors que le deuxième, c'est une véritable autobiographie.
Ah oui, on peut dire ça.
Alors, il n'y a pas que les publications de cet ordre que tu as faites. Tu es aussi présente dans les médias par le biais d'une chronique. Comment c'est venu que tu en es rendue à chroniquer à toutes les semaines? Hein? C'est à toutes les semaines, cela-là.
Oui, depuis, on s'en va sur 3 ans, ou je l'ai-tu fait le 3 ans, en tout cas. Oui, c'est une après l'autre, en effet. Alors, la façon où c'est arrivé, ça a été tout simplement le rédacteur en chef qui m'a contacté par une belle journée comme ça, en surprise, et qui m'offre cette tribune-là. Et en raccrochant, moi, j'avais jamais écrit de cette façon-là. Je tiens pas de blog non plus. Bon, je vais m'exprimer sur les réseaux sociaux, mais on s'entend que c'est des cours paragraphes. Et quand j'ai raccroché avec lui, je me suis dit, il m'a-tu vraiment dit un par semaine? Un article par semaine? Et là, après, là, j'ai commencé à angoisser un peu. Je vais-tu être capable de livrer quelque chose de différent à chaque semaine? Ouais, c'était tout un défi que j'ai accepté parce que j'aime les défis, j'aime les relever. Et en même temps, ça m'apportait une grande opportunité de pouvoir bien, sensibiliser les gens au handicap, puis surtout les gens qui ne le vivent pas, parce que ceux qui me lisent généralement, bien, c'est pas des gens qui sont nécessairement des personnes handicapées ou qui en ont obligatoirement dans leur entourage. Fait que pour moi, ça, c'est très important de pouvoir ouvrir les yeux sur cette réalité-là qu'on parle pas suffisamment, à mon avis.
Yvan aura une question pour
oui,
toi.
J'étais curieux de savoir, quand on t'a approché pour cette chronique-là, est-ce qu'on t'a approché spécifiquement sur le handicap?
En fait, il m'a donné carte blanche. Il m'a carrément dit, t'as carte blanche, tu t'exprimes sur ce que tu as envie. C'est certainement un journal local. Au départ, c'est Trois-Rivières, donc j'essayais de préciser souvent des trucs qui peuvent se passer comme ça dans mon coin, dans ma ville. Mais au-delà de ça, je peux toucher à la culture, je peux toucher à toutes sortes de sujets. Parfois, je tombe dans l'éducation. Moi, je vais quand même faire des ateliers dans les écoles. Je vois des réalités qui sont différentes de quand nous, on était à l'école. Et même, parfois, même quand j'écoute la télévision, il y a des choses que je vois, que j'ai envie de ramener, de discuter, d'avoir cet angle-là. Donc, non, j'ai carte blanche. C'est sûr que ça revient souvent au handicap parce que ça fait partie de ma vie.
Oui, c'est ça, oui.
Pour le fun, c'est que je suis pas, il y a aucune obligation de rien, c'est simplement les sujets peut-être d'actualité aussi là, qui me font vibrer que je peux écrire dessus, là-dessus.
Ça complète de toute façon tout ce que tu postes sur les médias sociaux. Alors, ça termine notre premier segment. On va continuer après la courte pause avec Yvan et on va parler du 8 mars 2012, l'avant et l'après, et il ne sera pas question du tout de l'année de la femme.
Alors, Marisol, on va revisiter un petit peu ton l'avant-fameuse date du 8 mars 2012. Tu étais très impliqué dans les arts. Qu'est-ce qui t'avait, qu'est-ce qui venait te chercher de ce côté-là?
Et c'est un parcours qui date du plus loin que je me souvienne. Tu sais, dans le fond, là, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux arts quand j'étais... Ben, au moment où j'étais capable de saisir un crayon entre mes mains, c'était déjà une passion qui m'habitait. Moi, je revenais de la petite école, je me prenais un Astérix Obélix que j'avais lu des dizaines de fois auparavant, mais qui avait autant de plaisir à relire. Et quand j'arrivais pour dessiner, ben, je prenais ces personnages-là, j'essayais de refaire, surtout Idéfix. Moi, les chiens, c'est mes personnages préférés, comme Beau et Bill, j'allais les dessiner. Et ça m'a même appris à dessiner, hein, d'avoir cet intérêt-là pour la bande dessinée. Puis, veux pas, de fil en aiguille, tout ça m'a amené à continuer des études, peut-être plus en production théâtrale. Moi, je suis née à Saint-Hyacinthe, donc c'est le cégep, c'est la technique qui est offerte là-bas. Ouais. C'est l'option théâtre. Donc, moi, je me suis inscrite en production théâtrale. C'était le cours qui me semblait le plus artistique là, que je pouvais avoir à ce cégep-là. Puis, j'avais envie de rester encore un peu dans ma ville. Et donc, ça m'a lancée dans le décor, finalement. C'est ce qui... Même si j'ai fait un petit détour par l'université, là, par le baccalauréat en arts visuels, je suis vite revenue au décor, à la scénographie, puisque j'ai travaillé là, pendant 10 ans de temps dans des ateliers à Montréal. Et j'ai adoré ça. J'aimais beaucoup mon travail, mais j'étais rendue à un point de ma vie où je voulais partir mon entreprise. Je voulais faire mes dessins.
Fait qu'il y avait le côté entrepreneur aussi qui était là.
Alors, tout à fait. J'ai toujours été comme ça. J'avais 12-13 ans que je publiais mes propres bandes dessinées. Ça s'appelait Les Aventures de Roger mon journal local à Saint-Hyacinthe où je publiais ça, une fois par semaine aussi.
j'ai pas lu quelque part que tu avais vendu de tes dessins dans des entreprises autour ou quelque chose dans le style pour pouvoir avoir un petit peu d'argent?
Tout à fait. Bien, j'avais envie. Puis c'était même pas à ce moment-là l'argent qui me motivait parce que j'étais quand même chez mes parents. J'avais 15, même pas, j'avais plus 12-13 ans à cette époque-là. mais c'était de, que mes créations soient vues par des gens. C'était ça qui me motivait. J'avais envie de qu'on voit que je suis capable, de m'épanouir au travers de tout ça. Donc, quand j'arrivais dans un magasin puis que l'affiche qui était faite à la main était pas jolie, ben moi, tout ce que j'avais en tête, c'est de leur proposer mes services. Puis oui, je chargeais un petit 10$ à l'époque.
Pour remplacer, finalement, hein, améliorer l'environnement.
Exactement.
Et avec ton conjoint qui était... Votre relation commençait à ce moment-là, je pense, avec Alain. Vous avez commencé déjà à travailler, puis à faire des illustrations, des chambres d'enfants, etc. C'était déjà en place.
Oui, ça faisait même plusieurs années. Attends, mes enfants avaient... Oh mon Dieu, il avait un petit 4 ans quand on a commencé, mon plus vieux. On a été en couple 10 ans avant qu'on donne naissance au plus vieux. Okay. Bref, oui, on a fini par partir notre entreprise quand on est déménagé à Trois-Rivières. Le contexte s'y prêtait parfaitement, mais même si j'étais pas connue, là, je devais quand même travailler dans un domaine connexe, même chose pour mon conjoint. Puis quand on a eu l'impression qu'il y avait suffisamment d'eau au moulin, hein, qu'on puisse tous les deux là, faire que ça, ça n'a pas été trop long que la décision ait été prise. Et donc, je me suis investie là, à 100%, puis avec Alain aussi, on a réussi à faire quand même de très belles choses en l'espace d'une seule année.
Oui, mais tu devais être vraiment fier de voir que ta passion pouvait te permettre de vivre, que oui. Tu pouvais peindre et vivre avec ça.
Alors pour moi, ça a toujours été, c'était ça mon plan de vie, c'était mon plan de match. Tu sais, on nous disait à l'école, bon, un artiste, ça ne vit pas très riche. Ça fait longtemps que je l'avais assumé, mais que c'est ce que je voulais faire quand même, gagner ma vie malgré les petits sous que ça pouvait apporter. Mais j'ai toujours fait ça. Tu sais, je travaillais dans le décor, j'étais peintre, j'étais payée. Et quand je suis arrivée à Trois-Rivières, j'ai travaillé dans le lettrage, dans les enseignes, et qui était artistique aussi. Et donc, partir de mon entreprise, c'était juste une suite logique, tout simplement. Là.
Donc, quand la bactérie a fait les dommages qu'elle a fait et que t'as eu à faire face à l'amputation de tes quatre membres, donc ta passion était directement touchée là-dedans.
Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter de pire à un artiste peintre de se faire couper les deux mains?
C'était tellement... Au sens propre.
Ah oui, exactement. Puis c'était surréaliste là, de vivre ça, parce que c'était comme si j'avais pas de repère, comme si je connaissais personne qui était amputé, les mains. Puis là, moi, que ça s'attaque à moi, qui est une artiste, je trouvais que c'était vraiment injuste.
À travers toutes les injustices, oui, Francine.
Mais c'est parce que j'imagine que tu ne pouvais pas penser qu'il y aurait une technologie qui te permettrait de reprendre ça.
Ah, non,
on est
non,
assez ignorant de ces choses quand on n'est pas directement concerné, non?
Tout à fait. J'étais certaine que c'était terminé. Moi, quand je me suis réveillée de mon coma, les membres étaient tout nécrosés. C'était évident là, que ça n'allait pas revenir, que ça allait finir par être amputé, là. C'est ça que j'ai pleuré. C'est là-dessus que ça a été mon pire drame à ce moment-là. Bon, par la suite, mes jambes m'ont beaucoup plus manqué, mais quand on est alité à l'hôpital, on ne se rend pas trop compte qu'on n'a plus de jambes. On mange, on boit, on veut se gratter. Et surtout, je me projetais dans mon futur. Comment je vais faire? C'est fini. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne pourrais plus faire ce que j'aime. Fait que c'est sûr que c'était des gros deuils à traverser.
Et là, tu as eu un soutien fantastique de ton conjoint, de Alain. Raconte-nous, Alain, dans cette période-là.
Alain, il est très créatif. Tu sais, il y a des gens qui font appel à des ergothérapeutes. C'est un métier qui est très important. Moi, j'ai mon ergothérapeute personnel.
que tu as choisi longtemps d'avance.
Oui, longtemps d'avance. La vie est bien faite comme ça. Puis il y a toujours des bonnes idées. Puis pour lui, c'est... Je sais pas, il y a une façon de voir ça comme, regarde, on va s'arranger autrement. Fait que quand il a vu que ça me... il savait depuis le départ là, que j'étais extrêmement triste de ne plus pouvoir dessiner, plus pouvoir peindre. Et quand je suis retournée à la maison avant d'aller en réadaptation, j'avais juste mes petits mignons, là. On fait pas grand-chose avec deux mignons.
Oui.
Et c'est là qu'il y a eu l'idée de m'accrocher, de m'attacher un crayon après mon mignon avec vraiment là, du gros tape là, pour que ça bouge pas. Puis... C'est dans la petite feuille qui m'a laissé que j'ai osé dessiner.
C'est là la fleur.
Oui.
C'est à ce moment-là la fleur que tu avais dessinée.
Oui, tout à fait. En noir et blanc, au départ, j'avais juste un crayon d'attaché après mon mignon. Mais c'est Alain qui a insisté, qui m'a dit « Elle est trop belle, là, mets de la couleur. » Là, je l'ai regardé, je dis, hey, wow, là, j'ai pas hâte de tout détimper ça. Mais on l'a fait, on avait mis quelques couleurs.
Oui. Et donc, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a une graine qui s'est semée que ta passion pourrait revivre?
Hey, j'ai tellement compris qu'il n'y avait rien de terminé. Tu sais, c'est fou là, de réaliser quand moi, je l'ai regardé sur le coup, je griffonnais, puis après, j'ai pris mon recul, j'ai fait je suis capable. Puis là, ben oui, je m'en allais en réadaptation peu de temps après, fait que c'est sûr que j'étais extrêmement motivée. Je me disais, quand je vais pouvoir saisir le crayon ou même le pinceau avec une prothèse, qu'on n'aura pas à tout taper ça, puis prendre ce temps-là, que je vais juste pouvoir prendre mon pinceau, mon crayon. Hey, j'étais motivée là, pour aller en réadaptation après.
Sûrement. Dans tes livres, tu parles de démarches parfois compliquées pour t'adapter à ta nouvelle vie. Les suivis médicaux, les prothèses, la modification de ta maison. Est-ce que tu peux nous dire brièvement quels ont été les principaux écueils de cette période-là?
Ah, mais je ne sais pas si on peut la dire au passé.
En fait, tu soulignes quelque chose. J'avais une sous-question qui était, est-ce que ces travaux d'adaptation-là ont pris fin?
Bien, les travaux ont pris fin, mais vous savez, n'importe quel objet, ça brise. Hein? Fait que si on se dit un bidet, un monte-charge, deux pinces, deux prothèses de main, deux prothèses de jambes, un fauteuil électrique, un autre fauteuil, c'est certain qu'il n'y a jamais quelque chose qui est 100% que j'ai la paix d'esprit. Là. J'ai toujours quelque chose qui est brisé, qu'il faut que je répare, les emboîtures, les prothèses. Là, dernièrement, il y a eu des gens qui sont venus changer la batterie du monte-charge de l'ascenseur, si on veut, mais j'aime bien l'appeler un monte-charge parce que c'est le vacarme que ça fait.
Ah oui, c'est ça.
Oui, c'est pas les ascenseurs qu'il y a dans les magasins. Là. Dans les centres commerciaux qui sont silencieux, là, non, c'est pas ceux-là. C'est vraiment un bon monte-charge qui fait du bruit, mais je me plains pas. Là. Imaginez, là, je peux aller dans mon sous-sol, je peux sortir à l'extérieur toute seule. C'est irremplaçable, là, ces équipements-là. Et donc, oui, les adaptations ont été faites, les murs ont été refaits, j'ai de l'espace pour circuler, je peux ouvrir, fermer une porte puisqu'elle rentre dans les cloisons. Bon, ma salle de bain est tout adaptée, mais c'est ça, on a changé ma batterie dernièrement, mon bidet avait brisé une certaine fonction, on a dû la réparer. Tu sais, c'est un peu comme ben, un feu roulant, là. Oui. Prochainement, j'envoie mes deux en voiture chez mes prothésistes, donc c'est sans arrêt des... C'est comme avoir une vieille bagnole qu'on veut garder, là, tu sais, qu'on n'a pas le choix, là, mais qui passe son temps à aller au garage. Tu sais, mentalement, c'est épuisant. Faut toujours que tu trouves des solutions pendant qu'elle est au garage, hein. Là, tu sais, dans une auto, faut que tu trouves un lift, faut que tu demandes à des amis. Bon, ben, moi, quand que je me retrouve avec pas de bidet, faut que je demande à quelqu'un, hein. Ou si je me retrouve avec des prothèses qui sont les deux brisées, comme dans le temps des fêtes, mes deux poignets ont décidé de cesser de tourner d'un côté. Direct l'avant-veille de Noël. Donc, pour manger, moi, j'utilise mon rotateur. C'est un petit peu tannant là, que ça arrive le 23 décembre.
Ça me fait penser que si y a une amélioration technologique importante pour tes prothèses, est-ce qu'on t'en avertit? Est-ce que tu peux changer la version 2.0 pour la version 3.0, là, quelque chose?
Pour ce qui est des technologies, c'est si, admettons, qu'on arrive en fin de vie une prothèse. Puis là, la fin de vie, là, je vais vous dire que les fabricants de prothèses, ils l'ont rapide, la fin de vie. Ils ont compris que s'ils disent après 6-8 ans, on répare plus, bien, on est obligé de racheter.
Ouais.
On s'en privera pas. Donc, naturellement, les compagnies ont adopté ça dans les 10 dernières années. Là, c'est assez récent, là, cette façon de procéder-là. Mais je m'en plains pas parce qu'effectivement, quand, mettons, mon équipement arrive en fin de vie, entre guillemets, il faut le changer. Donc là, on regarde où est rendue la technologie. Et quand j'ai eu à changer mes jambes, ben, j'ai essayé trois paires de jambes. Les gens essayent des souliers, moi, j'essaie des sortes de jambes.
Des jambes, c'est ça.
Ça m'a permis de choisir quelle technologie qui m'allait le mieux. Même chose avec les mains. Donc, c'est excellent pour ça. Mais il n'y a pas personne qui va m'appeler pour me dire « Ah, hey, t'as-tu vu ça? Il y a une nouvelle main. » Non, c'est moi qui me renseigne sur les réseaux sociaux, qui en parle avec mes prothésistes, puis bien sûr, eux discutent avec moi. Mais ça reste que, ça donne rien de se faire du mal non plus quand c'est hors de prix, là. On s'entend qu'on est juste chanceux au Québec d'avoir la RAMQ, là.
Oui, sûrement. On va terminer ce segment-là en parlant des enfants. Parce qu'ils étaient tout petits quand tout ça s'est arrivé, mais maintenant, ils ont, c'est des jeunes adultes, pré-adolescents.
Adultes.
Ils restent chez vous?
Un sur deux. Mon plus jeune de 18 ans est encore au cégep à côté, donc il reste ici, mais mon plus vieux est à l'université.
Okay.
Et donc, je ne sais pas qu'il voyage. Okay. Mais il vient à la maison, c'est justement, il voyage, donc il revient des fois des parties de l'été, les semaines de relâche, des congés, puis on est tellement contents.
Donc, ils conduisent?
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'ils ont conduit maman?
Hey, non, c'est même pas arrivé. Je n'ai pas embarqué avec eux. Nous, le fait qu'eux aient leur permis de conduire, ce que ça a apporté dans notre famille, c'est une paix d'esprit, encore une fois, une liberté pour mon conjoint, parce que, imaginez-vous, là, moi, je ne conduis pas. Et donc, quand tu as des jeunes enfants, c'est tout le seul et même conducteur qui fait tout, là,
oui, rendez-vous,
le dentiste, le coiffeur, la pharmacie, le médecin, l'école, les fournitures scolaires, le sport. Moi, j'ai des sportifs, donc des pratiques. Non, c'est très, très, très exigeant. Fait qu'à la seconde qu'ils ont eu leur permis, ça a quand même, justement, permis de souffler un peu. Mais j'ai pas embarqué avec eux, par contre.
Ah, oh, c'est pas arrivé, ça?
Non, c'est pas arrivé. Au départ, j'avais une voiture parce que ça prenait une certaine adaptation dans notre première voiture pour être capable de sortir, en fait, d'entrer. J'arrivais à sortir facilement, mais pas d'embarquer dans la voiture. Donc, j'avais une adaptation qui, c'est comme un fauteuil qui sort du véhicule, qui descend, qui vient te lifter à l'intérieur. Aujourd'hui, ma voiture que j'ai, je suis capable d'entrer, sortir facilement. Mais eux, les voitures qu'ils ont, sont ben trop basses. J'aurais besoin de plus d'aide pour sortir.
Une dernière question, toute rapide, en terminant. Le ménage, est-tu fait comme il faut dans sa chambre à celui qui reste, celui de 18 ans?
J'y vais pas souvent.
Mais
il faut que je prenne comme mon de charge pour y aller.
Alors, il y a toute liberté de faire ce qu'il veut. C'est intéressant quand même. Alors, on va terminer ce segment-là. Une courte pause et puis justement, on va continuer dans la légèreté et l'humour.
Oui.
Vous écoutez Au-delà des limites avec Yvan Delory et Francine Forget.
Marisol, il y a beaucoup d'humour chez vous, je trouve. Une espèce de légèreté qu'on retrouve et tu l'affiches dans tes médias sociaux, en Facebook, Instagram beaucoup. Comment ça se fait que tu as cet humour-là qui est... ma foi, des fois, comme je te l'ai mentionné dans une conversation qu'on a eue, des fois, c'est un peu surprenant pour quelqu'un, justement, qui n'a pas de prothèse.
Bien, justement, il n'y a que moi qui peux faire ce type de photo-là. Quelle chance! Non, l'humour, pour moi, c'est tout simplement arrivé parce qu'on aime rire. Puis même qu'on était à l'hôpital, dans le drame, qu'il y avait des moments dans une journée où on arrivait à rire, où on arrivait à blaguer, à faire des jeux de mots avec les bras, les jambes. On s'était même imaginé avec les enfants que le jour où on allait retourner à la plage, bien, qu'ils allaient pouvoir m'enterrer puis venir mettre une pelle, tu sais, directement là où aurait dû avoir une jambe. Bon, moi, je les ai plus, fait que c'est sûr qu'on va pas me la sectionner, mais effectivement, l'image que ça donne, c'est très surprenant. Fait qu'on avait déjà ça en tête, de cette possibilité-là d'avoir au premier regard un « hein, qu'est-ce que c'est que ça? » Je souhaite que ça amène rapidement un rire, mais aussi par la suite que les gens voient le second degré, parce que souvent, ça amène à démontrer une réalité, tout simplement. Donc, c'est vraiment par l'humour qu'on est arrivé à dédramatiser, ne serait-ce qu'avec nos propres enfants. Et rapidement, on l'a vu à quel point les gens embarquaient là-dedans, avaient du plaisir, commentaient, riaient avec nous. Fait que c'est très encourageant à toujours continuer. Fait que chaque Halloween, j'ai toujours une bonne idée de costume. Ben, je dis « j'ai », mais tu sais, honnêtement, là, on fait ça à deux, là. C'est beaucoup mon amoureux.
Ouais. Est-ce qu'il arrive qu'il y en ait des gens qui réagissent pas très bien à ce genre d'humour, d'autodérision?
C'est très, très rare. Moi, le plus drôle que j'ai eu, c'est quelqu'un qui me chicane en me disant, ça, c'est peut-être arrivé 2 ou 3 fois, la personne me chicane en me disant, t'as pas le droit de rire des personnes handicapées. Puis là, je suis comme, ben, c'est parce que c'est moi, je suis une personne handicapée, je pense que j'ai le droit de faire de l'autodérision. Puis là, la personne me répond, fait, oh, hey, désolée, je pensais que c'était un montage photo. OK, oui, t'as le droit. Fait que ça me fait bien rire, en fait.
Ah, c'est bien. On t'a donné la permission. Et ça fait longtemps, tu l'as mentionné, que vous faites ça, Alain et toi. Est-ce que vous êtes un peu des précurseurs? Parce que chez les jeunes humoristes qui sont en situation de handicap, on rit beaucoup. On a juste à penser à la série Vestiaire, là. Mais aussi, il y en a qui font maintenant des spectacles. Et puis, il y a beaucoup d'autodérision. Est-ce que c'est... vous êtes un peu les précurseurs, vous?
Bien, j'ai bien l'impression, parce qu'à l'époque où on a commencé, en tout cas, moi, j'en voyais pas. Il y avait peut-être quelques à l'international, mais même à ça, c'était très, très rare. Puis, bon, je me souviens d'avoir déjà vu quelqu'un qui faisait comme si un requin l'avait mangé avec plein du sang, mais c'était pas mal tout. Puis nous, on l'a vraiment appliqué, cet humour-là, à toutes les sauces, à toutes les situations, surtout pour montrer le quotidien. Puis ça, je pense que oui, on a été des précurseurs. Tant mieux si aujourd'hui, ben, la balle rebondit partout. C'est tellement une bonne façon de dédramatiser puis d'expliquer un peu la réalité en étant pas... Parce que moi, vous l'avez bien vu, vous l'avez bien entendu, pour ceux qui nous écoutent, j'aime rire. Puis ça peut être longtemps là, d'être handicapé, triste, là. C'est drabe, là. J'avais besoin de, justement, toutes ces blagues-là qu'on arrive à faire. Très visuel, là. On est vraiment dans les photos plus que dans les vidéos.
Ça parle.
Oui, exactement. Oui.
C'est une façon de faire avancer la cause aussi pour toi.
Ah oui, définitivement. J'en ai une qu'on avait fait, une mise en scène, où c'est comme si j'étais tombée d'une grande, grande, grande escalier à l'extérieur, là, qu'on voit là, parfois pour... monter là, d'un niveau là, d'une petite colline, et on me voit au bout, toute démantibulée avec mes prothèses, sont un peu partout, en fait, démembrées, hein, tout simplement. Et moi, avec le gros sourire, là, c'est ça, je pense que j'ai toujours cette signature-là sur mes photos. Là, le sourire, c'est ce qui fait aussi assez spécial avec le fait que, bon, on voit que la personne est comme déboulée des marches, puis elle s'est toute démantibulée. Mais c'était pour sensibiliser les gens. Je ne suis pas tombée pour vrai. Là. On a fait cette mise en scène-là pour sensibiliser à l'accessibilité universelle. T'sais. C'est tellement important d'avoir des rampes d'accès pour les personnes qui ne peuvent pas monter des marches. Puis moi, c'est mon cas. Fait que ça arrive très souvent qu'on doit revirer de bord ou qu'on doit même refuser certains contrats à cause que l'accessibilité n'est pas au rendez-vous. Cette photo-là, c'est quand même une belle petite fierté là, parce que ça a fait le tour du monde. J'ai eu des revues qui l'ont repris. Mon Dieu, dans d'autres pays, je me souviens pas lesquels exactement, mais ça avait été repris un peu partout et ça a été comme notre photo la plus virale là, qu'on a fait jusqu'à présent.
Alors, on va continuer à parler d'une certaine façon, puisque là, maintenant, on va parler de ta vie professionnelle, des arts que tu pratiques. Et pour ça, on a invité une vraie fan. Je pense qu'on peut dire que c'est une vraie fan. Elle s'appelle Annie Saint-Martin. Elle est médecin. Et je dis qu'elle est fan parce que elle a de tes œuvres. Elle a plusieurs de tes œuvres. Elle te suit sur les médias sociaux. Elle achète des cadeaux corporatifs que tu produis, etc., etc. Et c'est avec Yvan Deslauriers qu'on va travailler ce thème-là.
Bonjour, Madame Saint-Martin.
Bonjour.
Alors, racontez-nous comment vous avez rencontré la première fois Marisol.
En fait, moi, je suis de Lévis et avec mes enfants, on était allés au Salon du livre à Québec en 2014 quand ils ont... fait pas l'exposition, désolée, quand ils ont montré leur premier livre qui était « Quand l'Everest nous tombe sur la tête ».
Exact.
Et à ce moment-là, quand nous, on passait dans les allées, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un attroupement à côté d'eux. Fait que là, on s'est approchés, là, on a regardé un peu ce qui se passait. Et puis, Marisol, avec ses prothèses, faisait un peu déjà des choses exceptionnelles. Donc, était capable là, tu sais, de faire des tours complets avec sa main. Et oui. à ce moment-là, elle avait une main entre guillemets normale, comme on peut le dire. Donc, elle avait ses 5 doigts. Et puis, elle pouvait donner la main aux gens. Fait que là, tu sais, ça démystifiait beaucoup déjà cette partie-là. Et elle m'avait autographié
le livre.
Moi, je suis pas une grande lectrice, même si je suis médecin. J'aime pas tant ça lire des romans ou des biographies ou des. Mais je l'ai dévoré en une journée et quelques. Premièrement, il y avait une portion médicale dedans, mais surtout, bien entendu, la portion très humaine, très amour inconditionnel et en tout cas, fait que ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et par la suite, là, j'ai été comme vendue. c'était clair que ça devenait.
Il en fallait plus.
Oui, c'est ça. Tu sais, c'était vraiment au niveau humain, au niveau. C'était clair que pour moi, c'est une personne à qui je devais faire une continuité là, à ce niveau-là. Alors, c'est ça, il était déjà sur les réseaux sociaux. Donc, en m'inscrivant, je voyais là, un peu ce qu'elle faisait. J'ai effectivement, moi aussi, vu son autodérision, l'humour. Puis là, j'essayais de commenter quand même assez souvent. Fait que là, je suis devenue, j'ai même eu une badge là, de super fan. Fait que ça, c'était bien drôle.
Mais ça existe.
Ça a l'air de quoi? Oui. Ça a l'air de quoi?
Puis il y en a combien?
Dans le fond, c'est que plus on commente des choses quand on est soit sur Facebook ou par la suite Instagram, parce que au départ, je pense qu'en 2013, je pense qu'Instagram... 2014, excusez, Instagram n'existait pas, là, je crois. Mais, dans le fond, plus on commente, des fois, ça peut être juste « wow » ou, tu sais, vraiment des phrases plus longues, là, mais oui, plus on commente, plus on est avec l'artiste, la personne qui fait l'espèce d'envoi. Bien là, à ce moment-là, l'ordinateur, donc Facebook ou Instagram, bien là, ils voient, tu sais, qu'on est actif. Puis là, à ce moment-là, bien, ils disent, vous avez eu plusieurs, tu sais, interventions, mettons, là, des fois, ils disent ça autrement. Puis là, bien, ils disent, vous avez une badge de super fan, souhaitez-vous l'accepter? Fait que là, quand on l'accepte, à côté de notre nom, il y a comme des fois un petit...
Un petit logo.
Ouais. Je n'ai pas le nom. Des fois, ça peut être une médaille ou un trophée ou en tout cas. Fait que c'est ça.
Ah, mais je pensais que c'était Marisol qui avait créé une badge.
Non.
Parce que il me semble que ça aurait été dans le ton.
Ben oui, ça aurait été bon, hein, c'est ça.
T'aurais aimé ça, non, hein, Marisol?
Malheureusement, je ne peux pas avoir toutes les mérites, là, mais c'est ça.
Moi, les gens qui commentent souvent, je finis par apprendre leur nom. C'est pas une badge que je leur décerne, mais quand je les croise en personne, ça m'arrive de dire « Hey, c'est toi qui as un coucher de soleil hein, comme photo de profil. »
Ah, c'est bon, c'est ça.
Oui, c'est bon.
Fait que c'est ça. Fait que là, par la suite, quand je pouvais, elle avait un site là, qui était Les Illusards, qui était même créé avant, malheureusement, son événement.
Avant l'événement. Mmh. Et là-dessus, je vais me faufiler. Marisol, Les Illusards, pourquoi ce nom?
Les Illusards, c'était un jeu de mots avec illusion, illustration, puis les arts. On ne voulait pas se bloquer aucune avenue que ce soit, donc on englobait tout ce qui est artistique. Alors, on faisait des murales grand format, des chambres pour enfants, du commercial, mais aussi, parce que je dis « on », Alain était avec moi dans l'entreprise.
Oui, bien sûr.
Il fabriquait des petites lampes de chevet qu'on faisait en forme d'animaux. On avait vraiment un paquet de petits produits, là, des échelles de croissance. Donc, ça englobait tous les arts, finalement, avec des faux finis, d'où l'illusion aussi. Là. Mm-hmm. C'est un jeu de mots, finalement.
D'accord. Alors, je suis allé voir sur le site Les Illusards et j'ai appris que tu avais donné 145 conférences Allume ta flamme, 169 conférences Regardez loin devant. Tu avais donné 163 ateliers d'art présentées dans les écoles, des illustrations de livres pour enfants mettant en vedette deux roches sympathiques, Roc et Pierre, qui sont écrits par Alain Robert. Des peintures scéniques qu'il y avait au début, il y avait aussi des peintures artistiques. Donc, le site raconte pas mal toutes tes implications, toutes tes actions. Puis, j'aimerais avoir peut-être du côté de l'atelier d'art dans les écoles, un petit peu comment ça se passe, un exemple.
Ah ben en fait, on rencontre les élèves, mais on peut pas tout de suite leur faire un atelier d'art. C'est bien trop surprenant d'avoir une personne avec quatre prothèses, puis je me présente avec mon petit fauteuil roulant. Donc c'est sûr qu'Alain et moi, on commence avec une présentation rapide là pour expliquer un peu là d'où je viens, notre petit parcours assez singulier ma foi, mais bon. Et là ensuite, après ça, on peut, tu sais, l'attention est moins, les yeux sont moins portés sur mes prothèses. On en a parlé, on a démystifié, on a répondu aux questions. Puis après, on peut faire des ateliers d'art. Comme on en a plusieurs, ben ça dépend de celles qui ont choisi. Oui. Et on peut faire de la peinture comme du dessin, des pages couvertures de livres, des petits trucs comme ça. C'est ben le fun.
Ce sont des enfants de quel âge? Seulement le primaire ou si tu fais aussi au secondaire?
Ah, on a touché au secondaire aussi, effectivement, plus avec la peinture. Je pense que c'est ce qui est le plus fun pour leur âge. Mais oui, généralement, on est au primaire, pas mal avec ce groupe d'âge-là. Mais bon, les conférences aussi fait que je peux me retrouver à l'université, au collégial. Moi, je m'adapte selon mon auditoire, tout simplement.
Madame Saint-Martin, vous avez acquis des tableaux?
Oui, en fait...
vous en avez plusieurs, hein, si je me rappelle,
oui.
Annie, oui. Hein.
Désolée pour ceux qui n'ont pas réussi à voir l'étoile que j'ai en ma possession. Donc, les premières toiles que j'ai eues, c'est que suite à la pandémie, Marisol a réussi à faire une première exposition au Musée Pop en automne. Je crois que c'est en 2022. Ça se peut-tu? Ou...
2021, on était vraiment collés.
2021, on a réussi. Fait que c'était peut-être entre deux confinements. Bref.
Oui, un masque au vernissage, je me souviens très bien.
Ah bon, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, on avait déjà vu là, sur le site qu'on pouvait, qu'il y en aurait de disponible, en fait. Je m'étais présentée. Avec mon fils. Et puis moi, Lévis, Trois-Rivières, c'est rien pour voir Marisol. Donc, puis là, j'ai eu un coup de cœur. J'ai acheté trois toiles. Ils sont dans mon salon. Deux dans mon salon, une dans mon portique.
Est-ce que vous étiez collectionneuse avant de rencontrer Marisol?
En fait, j'ai une autre artiste québécoise que j'aime beaucoup, elle, c'est de l'art abstrait, fait que c'est vraiment totalement différent.
Oui.
Puis qui est plus jeune, donc elle, ce qui m'a beaucoup touchée de cette artiste-là, c'est qu'elle était, elle a commencé très jeune. Fait que, dans le fond, là, c'est que ça me prend, pour un peu accrocher, ça me prend vraiment quelque chose de singulier, qui fait vraiment la beauté, tu sais, de l'artiste, là, en fait. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de Marisol, c'est ce qu'elle dégage au niveau de sa toile, de ses toiles, excusez. Et c'est toujours le souci du détail, malgré des prothèses. Quand je dis aux gens, c'est une dame... c'est sûr que je sais que tu ne peindras jamais avec tes pieds, mais j'ose quand même dire que tu peux tenter. Mais c'est sûr que j'aurais pu dire pas de main droite ou tu sais, bon. Pour dire, ils me disent toujours est-ce qu'elle peint avec sa bouche? Non, elle peint pas avec sa bouche.
Non, mais dans ton deuxième livre, Marisol, tu mentionnes le fait que ton trait il est moins droit qu'il a déjà été, puis que tu acceptais les imperfections de ce trait-là. Mais avec la pratique, est-ce que ce trait est redevenu comme avant?
Oui, tout à fait, complètement. Même que j'essaie de retrouver cette. En fait, le fait que ça bougeait, que ça vibrait, que ça allait au-delà de mon contrôle,
oui.
Moi, je savais ce que ça avait donné. Donc aujourd'hui, même si je maîtrise beaucoup mieux mon trait, ça me dérange pas quand ça accroche puis que ça fait une petite erreur. Je l'amplifie, je donne des petits picots, je fais comme si j'avais fait des erreurs parce que je veux retrouver toujours ce petit trait qui est plus spontané qu'auparavant où j'étais très, très, très clinicienne, là, très technicienne. Là.
Je reviens à Mme Saint-Martin. Donc, oui. Le site Les Illusards, pour vous, c'est une source d'œuvres d'art et de cadeaux, peut-être?
Oui, oui. Ben, en fait, juste pour terminer pour mes toiles, j'ai vu qu'elle faisait des demandes spéciales, des commandes là, en demande spéciale. Fait que pour mon 25e anniversaire de mariage, j'ai, avec Marisol, choisi quelque chose qui permettait de reconnaître son art, dans le sens que quelqu'un qui voit la toile puis qui regarde son site, ben est capable de dire « oui, 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 c'est du Marisol, là ». Ben là, à ce moment-là, j'ai fait faire une toile. Puis j'ai aussi fait faire dernièrement une autre toile particulière qui va un peu en lien avec ça. Et ben depuis un bon 6 ans, je crois, je l'encourage en prenant des calendriers. Donc, ça donne pour la personne 13 toiles qu'elle pourra encadrer par la suite. Parce que sur la toile, bien ça, sur l'œuvre, elle est complète, là, la signature. Tu sais, tout est là, dans le fond. Fait que moi, je me dis que ça peut faire des encadrements par la suite. Et bien, je sais que ça fait comme une... entre guillemets, une genre de publicité ou de, tu sais, je l'encourage comme ça, puis je... Fait que à chaque année, je donne une bonne vingtaine là, de calendriers là, pour aider, ouais.
Et... Des très belles commandes avec des cartes de souhait, puis des...
Oui!
Je suis toujours très, très
gâtée. Fantastique. En terminant, il nous reste quelques instants, quelques secondes pour ce segment. Je pense que vous partagez aussi une autre activité ensemble.
Oui. En fait, depuis 2 ans, et on sait déjà que la troisième saison arrive, Marisol et Alain, son conjoint, ont décidé de débuter, dans le fond, ce qu'on appelle la marche qui roule. Et c'est pour promouvoir, en fait, les personnes, t'sais, l'accessibilité aux personnes handicapées, en fait.
Et puis, vous êtes allé vous êtes allé marcher vous-même lors de cet événement-là.
Les 2 fois, donc même si c'est à 10 ou 11 ans, je me rappelle pas, je pars le matin de Lévis, je m'en vais, et la première année, j'ai même tenu ces béquilles.
Ah mon Dieu, jusqu'à
en portion. Ah oui.
Jusqu'à ce point-là, vous avez tenu les béquilles.
Oui. À côté, fait que quand je vais me lever, parce que bon, le fauteuil roulant, je vais être assis, j'ai mes béquilles pas loin, puis Annie était là pour me les tenir quand j'en ai besoin, les enlever. c'est plus qu'une femme.
Tout à fait. Alors,
j'ai même épongé.
Vous avez travaillé fort.
Mais merci beaucoup, Annie. On aurait pu continuer longtemps, mais malheureusement, l'entrevue tire à sa fin et on a encore quelques thèmes à explorer avec Marisol.
Ben, merci à vous.
Alors, Annie Saint-Martin, qui a participé à cette entrevue avec une grande générosité et beaucoup d'amour pour Marisol. Alors,
et
au revoir.
Oui, une grande amie. Merci. Merci, au revoir.
Hey, guys. Merci. Merci à toi.
Yvan a déjà pas mal entamé le prochain segment. La marche qui roule, bon, j'aimerais peut-être que vous me parliez un petit peu, c'est-à-dire que tu me parles un petit peu de comment c'est né cette affaire-là.
La marche qui roule, c'est né du cerveau à Alain, mon conjoint. C'est lui qui a eu cette idée-là en premier. Il trouvait qu'il n'y avait pas de grandes activités où on voyait les personnes handicapées. Tu sais, parfois, on va faire des activités de financement pour les personnes handicapées. Mais avec ces gens qui vivent toutes sortes de situations de handicap, hein, soit dit en passant, autant physique, intellectuel, on a vraiment de tout, ben, ils disaient, il me semble qu'on les voit pas. Puis, tu sais, on a entendu, nous, une statistique à un moment donné qui disait, à l'époque, c'était, je pense, 16 % c'est rendu 22 % de la société qui est en situation de handicap. Et comme 100% des gens sont à risque d'avoir un handicap, pas nécessairement permanent, pas nécessairement comme le mien, mais de vivre une situation de handicap dans leur vie. Donc, ça fait beaucoup de monde. Puis pourtant, on en voit, surtout à l'époque, là, quand l'idée est germée, on n'en voyait pas à la télévision. Tu sais, c'est comme si on passait sous le radar. Puis je pense que pour sensibiliser les gens à la réalité, ben, il faut qu'on nous voit. Puis cette journée-là est là pour ça, mais c'est avec le sourire. Tu sais, on n'est pas une journée pour aller dénoncer. Puis Dieu sait qu'il y a des choses à dénoncer, surtout en ce moment, au niveau du handicap qui fait souvent un recul dans les services qu'on nous sert. Mais bon, c'est pas cette journée-là. Cette journée-là, c'est pour marcher ensemble, sociabiliser ensemble, rire ensemble, puis montrer qu'on est un gros groupe, puis que malgré toutes nos airs de poké, hein, parce qu'on a tous quelque chose, on traîne un fauteuil roulant, la canne, marchette, tu sais, il y a vraiment de tout. Ben, il reste qu'on est capable d'avancer, puis on a le sourire. Puis moi, cette image-là, la première fois qu'Alain m'a raconté qu'on pourrait faire ça, que ça serait super. Puis en plus, il y avait eu l'idée de le faire sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Fait que là, en même temps, on se prend pour des petits bolides de course, mais on prend la rue aussi. C'est aussi symbolique parce que, bon, le Grand Prix est un circuit sur une des rues à Trois-Rivières. Et donc, tout ça, je voyais l'image que ça faisait. Et j'ai pas été déçue quand j'ai vu les images de la première édition. Ça nous motive énormément. D'ailleurs,
à continuer. À continuer. Marisol, il n'y a pas que ça dans ta vie de sportive, je dirais. Depuis quelque temps, tu t'es donné un défi, hein? Un grand défi.
Oui, j'ai rajouté, parce que je trouvais qu'ils disent, hein, les médecins, Annie pourrait nous le confirmer, c'est 30 minutes d'activité par jour, hein, qui est important de faire, puis surtout que de faire battre son cœur, tu sais, une activité qui va être cardio. Bon, j'en faisais un petit 10-15 minutes en faisant des exercices le matin. Pas tant cardio non plus, mais un peu pareil. Puis je trouvais qu'il manquait quelque chose l'hiver, parce que l'été, je peux beaucoup plus facilement marcher à l'extérieur. Pour moi, marcher, c'est un exercice cardio. Je suis dans ma petite piscine, je fais beaucoup d'exercices. Je suis là tous les jours que je peux, je suis dans la piscine. Mais l'hiver, c'est comme compliqué là pour moi. Donc, je me suis dit, tiens, je vais taper sur... Tu sais, je me suis rappelé là, qu'on avait, là, tu sais, dans plus jeune, les cassettes de José Lavigueur, tu sais, des trucs comme ça. Puis je me suis dit, hey, peut-être que je suis capable de faire certains mouvements, en tout cas, me dépenser cardio. Fait que je suis allée sur YouTube, puis j'ai tapé cardio sans saut, parce que je ne suis pas capable de sauter.
Ouais.
Je ne peux pas sauter sur place. Et je suis tombée sur un petit vidéo d'une personne qui les présente, et ça, j'ai trouvé ça super motivant. J'ai fait, hey, wow, c'est vraiment le fun. Puis j'ai essayé. C'est bien sûr que je fais pas tous les mouvements. Et les premières semaines, je trouvais que j'avais de la misère à passer au travers du 15 minutes. Là. Je devais m'asseoir entre-temps, là, parce que c'était un peu difficile. Puis là, ben, toi, aujourd'hui, je le fais au complet, mon 15 minutes, sans avoir besoin de me reposer. Donc, ouais, une petite activité de cardio là, comme ça, là, c'est une belle petite séance que j'ai l'impression qui me met plus en forme, puis je vais chercher ce qui me manquait l'hiver. Là.
Alors, ton cardio, la fréquence de ton cardio t'a amené à faire une très belle entrevue et nous sommes rendus à la fin. Alors, merci Marisol pour cette très belle rencontre. On a vécu au cours de l'heure beaucoup d'émotions, hein, avec l'artiste que tu es. On a ri aussi, des rires bien sentis. Je te dirais que maintenant, je comprends mieux peut-être tout ton humour là, qui est exposé sur les médias sociaux. Et on a reçu aussi une bonne dose d'énergie parce que tu en donnes de l'énergie, probablement parce que dans ta façon de t'exprimer, hein, c'est vraiment vigoureux, c'est éclatant. Tu nous as fait entrer dans ta vie personnelle sans tabou, pas parce que tu veux qu'on parle de toi à tout prix, non. C'est que tu le fais par générosité pour tous ceux et celles qui sont en situation de handicap. Et là, ça, c'est sûr que quand on regarde dans tes chroniques, par exemple, et dans les messages que tu portes aussi régulièrement, que c'est une cause qui est importante pour toi et qu'il ne faut pas cesser d'en parler. Comme tu dis, il y a des périodes où c'est parfois plus difficile, comme celle que vous vivez présentement à cause des restrictions budgétaires. Tu le fais par générosité, tu le fais également parce que tu es consciente que ton rôle d'artiste te place dans une position avantageuse pour faire avancer l'inclusion. Et tu es combative. En femme de conviction, rien ne te rebute. Tu as des outils comme l'art et l'écriture qui te permettent une présence publique et tu t'en sers vraiment adéquatement. On a juste le goût de te dire « lâche pas Marisol, puis on va continuer à te suivre ». Tu as sûrement de beaux projets hein, qui t'attendent. Peut-être que tu ne peux pas nous en parler, mais entre-temps, on va continuer à s'informer sur toi. On va lire tes chroniques dans le Nouvelle Liste et évidemment, on va fréquenter les Illusards pour voir ce sur quoi tu travailles. Merci à Annie Saint-Martin, une vraie admiratrice. L'écouter a été pour nous une autre façon de comprendre un peu plus qui tu es. À la réalisation de cette entrevue, Mathieu Tessier. À la recherche et à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. Au-delà des limites est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.